Yes, très très heureux d'être avec vous ce matin pour continuer cette thématique-là. Puis comme ça a été dit, c'est la deuxième fois que je viens prêcher ici. Et la dernière fois, on était 25 parce qu'on ne pouvait pas être plus. Donc combien sont contents qu'on peut revenir à pleine capacité, sans distanciation? Yes, on est vraiment reconnaissant pour ça. C'est vraiment une joie pour moi d'être ici. Puis continuer en plus cette thématique rêve de Dieu que je trouve vraiment incroyable. Qui aime ça à date, la thématique? Yes, vraiment bénissante. Moi, chacun des messages, des écoutes, j'ai vraiment été encouragé et béni par chacun d'entre eux. Et la thématique, c'est rêve de Dieu. Parce que oui, on croit que Dieu a des rêves pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, qui que tu sois ici, peu importe ton arrière-plan, ton background, Dieu a un rêve pour ta vie. Amen. Est-ce qu'il y en a qui le croient ce matin? Dieu a un rêve pour ta vie, pour tes relations, pour ta carrière, pour ton ministère, pour ton mariage. Dieu a un rêve pour ta vie. Puis comme ça a été prêché dans les semaines précédentes, le rêve de Dieu, lorsqu'on parle de rêve de Dieu, ce n'est pas un rêve de Dieu qui est juste à des fins individuelles. C'est un rêve qui concerne aussi notre entourage, où Dieu nous appelle à briller en tant qu'Église. Pasteur Sylvain a amené un super message justement la semaine dernière sur comment l'Église est appelée à briller, le rêve de Dieu pour l'Église. Et moi, il y a un des versets qui m'encourage le plus à vivre une vie sans compromis pour Dieu, pour accomplir le rêve qu'il a pour ma vie. C'est le verset en Éphésiens 2:10 qui dit ceci: car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quel verset incroyable! Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes pour chacun d'entre nous afin qu'on puisse les pratiquer, afin qu'on puisse rentrer dedans et les accomplir et rentrer dans notre destinée. Mais l'accomplissement de ce rêve-là, l'accomplissement de toutes ces bonnes œuvres-là que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous est conditionnel aux décisions, aux choix que nous prenons. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Les obstacles aux rêves de Dieu ». Les obstacles aux rêves de Dieu pour ta vie. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des décisions qu'on peut prendre, qui peuvent freiner, voire même avorter le rêve de Dieu pour nos vies. Et aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, parce que cette histoire-là nous enseigne quelque chose. C'est que Joseph avait reçu un rêve, une vision de Dieu, une vision de grandeur. Mais entre le moment où il a reçu la vision et le moment où il a accompli cette vision-là, sa vie n'a vraiment pas été un long fleuve tranquille. C'est le moins qu'on puisse dire. Ceux qui connaissent l'histoire savent que sa vie n'a pas été tout rose. Et pour faire un petit résumé, Joseph, ça a été prêché dans les semaines précédentes. Joseph, lorsqu'il était adolescent, il avait 16-17 ans, a reçu un rêve de la part de Dieu. Une vision grandiose qu'un jour, il allait gouverner. Qu'un jour, il allait devenir un homme d'impact, un homme d'influence. Et le moment où il reçoit cette vision-là, cette vision paraît totalement folle parce qu'il vit dans un environnement toxique. Vraiment défavorable, il est dans une famille totalement dysfonctionnelle où il est totalement maltraité par ses frères. À un moment donné, Genèse nous relate même un événement où les frères de Joseph le laissent pour mort. Ils le laissent pour mort pour quelques jours après le vendre comme esclave en Égypte. Mais combien savent que le Dieu qui promet des choses, il est capable de les accomplir, peu importe les circonstances. Et ça, c'est ce que nous montre l'histoire de Joseph. Que malgré ses circonstances défavorables, Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et ce même Joseph-là, qui était vendu comme esclave, laissé pour mort, on le retrouve quelques années plus tard, gouverneur d'une Égypte richissime, et il deviendra littéralement l'homme providentiel qui permettra au peuple d'Israël de pouvoir éviter la famine. Ça, c'est ce que Dieu est capable d'accomplir. Mais dans le texte qu'on va regarder aujourd'hui, Joseph est loin d'être le gouverneur encore. En fait, dans le texte qu'on va voir, Joseph est un esclave. Il vient d'arriver en Égypte et il est esclave chez un homme qui s'appelle Potiphar. Potiphar, c'était le chef des gardes, quelqu'un de haut gradé dans la hiérarchie égyptienne. Et Joseph est sert comme esclave, mais la faveur de Dieu est encore sur lui. Peu importe les circonstances, puis ça c'est le message de Joseph aussi, hein. Peu importe les circonstances dans lesquelles on est, lorsqu'on appartient à Dieu, il y a une faveur sur nous. Et alors que Joseph excelle dans son service, dans ses responsabilités, Potiphar le remarque. Potiphar, il voit à quel point cet esclave-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas comme les autres, il sert avec excellence et commence à lui confier de plus en plus de responsabilités. À un tel point qu'il a autant de responsabilités que Potiphar lui-même, c'est incroyable. Jusqu'à ce qu'un nouvel obstacle arrive sur sa route. Et cet obstacle-là nous est relaté en Genèse 39 et c'est le suivant. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ».
Mais il s'y refusa et lui dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi. Et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Jour après jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et même d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains et s'élança dehors. Bienvenue à Nouvelle Vie Châteauguay ce matin. C'est le texte idéal pour commencer un message. Puis blague à part, ça a été dit tout à l'heure que je travaillais avec des ados. Un de nos arguments justement pour les encourager à lire l'Ancien Testament, c'est qu'on leur dit que dans l'Ancien Testament, il y a autant de rebondissements que dans ta série Netflix préférée. Puis ce matin, on en a la preuve. Le premier obstacle que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est l'obstacle du compromis. Parce qu'alors que Joseph sert avec fidélité, la femme de Potiphar le remarque. La femme de Potiphar le remarque et lui propose de coucher avec elle. Et Joseph fait face ici à une tentation. À une tentation, bien sûr, qui est physique, parce que la femme de Potiphar était réputée comme étant une très belle femme. Mais également une tentation, il y a également une dynamique de pouvoir ici. Parce que c'est la femme de son boss. Elle peut littéralement l'élever ou totalement détruire sa carrière. Et Joseph, il est face à cette tentation-là. Et sur la route du rêve de Dieu pour chacun de nos vies, nous faisons face, nous aussi, quotidiennement à des tentations. Et nous allons faire face à des tentations, dans des domaines différents, à des degrés différents, mais tous sans exception, nous allons faire face à des tentations. Et c'est pour ça qu'il est primordial. Il est primordial de les identifier et de comprendre comment elles fonctionnent afin d'avoir la victoire sur elles. Parce que nos réactions, nos décisions face à ces tentations-là vont déterminer l'accomplissement du rêve de Dieu pour nos vies. Parce que tant et aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, il y aura un combat. Il y aura un combat à mener. Et le meilleur moyen pour remporter la victoire sur nos combats, c'est de connaître la stratégie de l'adversaire. Et dans la Bible, un des livres qui explique le mieux comment fonctionne la tentation, c'est le livre de Jacques. Jacques, à un moment donné, explique comment tout ça fonctionne, la tentation, et nous dit ceci. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise ayant conçu met au monde le péché. Et le péché étant consommé enfante la mort. Jacques ici nous explique comment le péché fonctionne. Le mot péché, c'est un des mots les plus impopulaires au Québec, mais ça signifie tout simplement manquer la cible. C'est s'écarter de la volonté parfaite et bonne de Dieu pour nos vies. S'écarter du rêve de Dieu pour nos vies. Et ici, Jacques explique comment est-ce que tout ça fonctionne. Et pour ça, il utilise un terme comme amorcer qui renvoie au domaine de la pêche. Est-ce qu'il y a des amateurs de pêche ici, des gens qui aiment pêcher? Il y en a quelques-uns. Benjamin, je savais que tu allais dire ça. Moi, j'ai des amis qui sont fans de pêche, okay, qui vont été comme hiver. Puis j'avoue que j'ai un grand respect pour ceux qui vont pêcher l'hiver. Moi, dès que je vois de la neige, il y a quelque chose qui se passe dans mon cerveau qui me dit qu'il faut que tu restes à l'intérieur. C'est mon côté frileux africain, je pense. Donc, beaucoup de respect pour ceux qui vont à la pêche l'hiver. Et je ne suis pas un expert de la pêche, mais si je sais une chose, c'est que une des premières étapes pour pêcher un poisson, c'est qu'il faut que tu aies un appât. Un appât, c'est quoi? C'est quelque chose que le poisson aime, qui va l'attirer. Ça peut être des vers, des crustacés. J'ai fait mes recherches. Ça peut être des vers, des crustacés. Ça peut être toutes sortes de choses, mais il faut que ça soit quelque chose que le poisson aime pour que ça puisse l'attirer. Jacques nous dit que pour le péché, c'est pareil. Par définition, on est tenté par quelque chose qu'on aime, par quelque chose qui nous attire. Et le pasteur Timothy Keller a dit la chose suivante sur l'origine du péché. Il nous dit ceci. La Bible enseigne que le péché commence toujours par quelque chose que vous ajoutez à Jésus-Christ comme exigence pour être heureux. Quelque chose que vous devez absolument avoir. Le péché commence toujours par la pensée de Dieu, il est gentil, il est bon, mais pour que je sois vraiment heureux là, pour que je sois comblé, pour que je sois satisfait, il faut absolument que j'ai ça. Si je n'ai pas ça là, ma vie elle est finie, je ne serai pas heureux, je ne serai pas comblé. Le péché commence toujours par la pensée de Dieu, il est bon, je le prie, je vais à l'église. Mais moi, là, ce qui va vraiment me combler, là, c'est d'avoir une carrière réussie. Et si pour avoir une carrière réussie, je dois faire des compromis dans mon témoignage chrétien, qu'il en soit ainsi. Le péché commence toujours par Dieu, il est bon, Dieu, il est fidèle, il est gentil, il est bon, mais moi, j'ai des pulsions, là, et j'ai besoin de les satisfaire. Et si j'ai besoin de sortir du cadre du mariage que Dieu a donné, ben, qu'il en soit ainsi. Le péché commence toujours par Dieu, il est bon, il est fidèle, Mais moi, ce que je veux là, c'est être apprécié à la job. C'est être vu comme étant cool, impressionner les gens. Et si pour ça, je dois taire le fait que je suis chrétien pour ne pas subir des moqueries, qu'il en soit ainsi. Le péché commence toujours par quelque chose qu'on pense qui va nous combler autre que Dieu. Et ça nous attire. Et c'est là où la tentation du compromis commence. C'est là où la tentation de faire des compromis dans ce que Dieu nous demande, la manière dont Dieu nous demande de nous comporter, commence. Pour en revenir à mon image de poisson, j'en ai pas fini avec les poissons ce matin. Lorsque, et puis les amateurs de pêche confirmeront, mais lorsque le poisson voit l'appât, il remarque l'appât, le ver, le crustacé qu'il a envie de manger, ce qui se passe, c'est qu'il n'y va pas directement. Il y va tout doucement. Tout doucement, il analyse parce qu'il n'a pas envie d'effrayer l'appât. Il y va tout doucement, puis généralement ce qu'il fait, c'est qu'il tourne autour. Il tourne autour de l'appât jusqu'à ce qu'il soit prêt à attaquer. Mais le pêcheur, lui, qui est assis avec sa canne à pêche et qui voit un poisson tourner autour de l'appât, lui, il sait que c'est juste une question de temps, là. Il sait que le poisson, il est fait. Il sait que le poisson va mordre et que c'est juste une question de temps avant que ça arrive. Et c'est pareil pour nos péchés. Les chutes morales n'arrivent jamais d'un coup comme ça, d'un jour. Elles ont toutes été préparées par des petites décisions, par des petits compromis qui nous y ont menés. Et c'est ce qui se passe ici dans notre texte. Le texte nous dit que l'acte de la femme de Potiphar n'est pas arrivé en un instant. Ça a commencé par des pensées, puis ensuite elle a commencé à proposer à Joseph de coucher avec lui. Et à un moment donné, jour après jour, elle y va jour après jour, jusqu'à ce qu'elle arrive à un point où elle n'est même plus dans la proposition, elle est dans l'ordre, elle lui attrape le vêtement, puis c'est limite un viol, c'est une agression là qui se passe là. Tu sais, c'est Joseph, il aurait pu dire me too, puis il aurait eu raison là. Elle l'accroche, et puis à ce moment-là, l'expression en hébreu est beaucoup plus explicite. Nous, en France, en français, la traduction, on a comme dit, elle l'a accroché, puis elle voulait vraiment coucher avec lui. L'expression en hébreu est vraiment, vraiment plus explicite et témoigne d'une femme qui est littéralement contrôlée par ses pulsions. Et c'est comme ça que le péché commence. Elle a commencé par des pensées. Des pensées de Joseph. Puis ensuite, ça a commencé par des propositions. Puis elle a tellement nourri sa tentation à cause des petits compromis qu'elle a fait que c'est devenu juste incontrôlable. Elle est arrivée au point où elle ne pouvait plus se contrôler. Et c'est exactement ce qui se passe. Les chutes morales sont toujours précédées de quelques semaines, mois, années de compromis. Ce n'est pas toutes les convoitises qui finissent en adultère, mais tous les adultères ont commencé par de la convoitise. Et peu importe les domaines dans lesquels on est tenté, on a tous des domaines dans lesquels, propres à chacun dans lesquels on est tenté, ce que tu tolères de temps en temps aujourd'hui risque de devenir ton quotidien demain. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de dire non lorsqu'on a dit une fois oui, ou bien juste peut-être. Et c'est ça que le péché fait. Le péché ne s'arrête pas juste à juste un domaine de ta vie. Ce qu'il veut, c'est contrôler ta vie. Et c'est là toute la supercherie des tentations. Le poisson, lorsqu'il voit l'appât, là, la seule chose qu'il voit, c'est son repas. C'est OK, le crustacé que je vais manger, c'est juste ce qui va me satisfaire, c'est juste ce qui va me combler. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que l'appât est suspendu à un fil qui lui-même est tenu par un pêcheur qui attend juste qu'il morde l'hameçon. Ce qu'il ne voit pas, là, c'est qu'en mordant à l'hameçon, il est sur le point de perdre sa liberté et ultimement de mourir. C'est lorsqu'on fait face à nos tentations, ce qui nous est présenté, c'est seulement le côté positif. Oh, j'ai l'impression que ça va tellement me combler, ça va tellement satisfaire mes besoins, ça va tellement me combler. Mais on ne voit pas toute la peine et la souffrance que cet acte va causer derrière. C'est ça qui nous est présenté. C'est ça le supercherie de la tentation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si nos plus grandes défaites sont toujours précédées de petits compromis, nos plus grandes victoires sont toujours précédées de simples petits gestes d'obéissance. C'est ce qui se passe dans ce texte. C'est pour ça que lorsque ce jour-là, la femme de Potiphar s'est présentée devant Joseph, à cause de tous les petits compromis qu'elle avait fait dans sa vie, elle avait déjà perdu la bataille. Mais Joseph, à cause de la place qu'il laissait à Dieu dans sa vie, dans tous les petits gestes d'obéissance, le texte nous disait que non seulement il refusait de coucher avec elle, il refusait même d'être dans la même pièce qu'elle. À cause de tous les petits gestes simples d'obéissance qu'il avait, il avait déjà gagné la bataille. Quelqu'un a dit la chose suivante. Vos actions deviennent vos habitudes. Vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. Ne sous-estimez pas l'importance de simples gestes d'obéissance. D'obéir aux choses les plus simples que Dieu nous demande dans le quotidien, c'est ça qui forge notre caractère. C'est choisir de se lever un peu plus tôt le matin et de dire, Moi, je ne veux pas passer une seule journée sans aller dans la parole de Dieu, sans aller dans la prière, parce que je sais que je dépends de Dieu. Je sais que j'ai besoin d'être rempli de son esprit pour pouvoir manifester la vie qui m'appelle à manifester, pour pouvoir manifester les fruits de l'esprit. J'ai besoin d'être dans la présence de Dieu. C'est choisir les films qu'on regarde sur Netflix, de dire, moi, je veux pas souiller mon âme. Je veux laisser aucune place à l'ennemi dans mon cœur. Je veux rien laisser qui fait obstacle à ma relation avec Dieu. Tout ce qui fait obstacle dans ma relation avec Dieu, dans mon quotidien, je veux m'en débarrasser. Je ne veux rien laisser dans ma vie qui met une barrière dans ma relation avec Dieu. Et vous allez me dire, c'est des choses basiques, Thomas. Tu n'as pas autre chose, lire la Bible, prier. Mais ces petits gestes-là d'obéissance, l'obéissance ordinaire dans ces petites choses-là produit un fruit extraordinaire. Comme ça a été dit tout à l'heure, moi, j'ai pas, en fait, comme vous entendez à mon accent, là, moi, je viens de France, puis j'ai pas grandi, oui, Séverine représente, j'ai pas grandi ici au Québec. Je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années, puis je me souviens les premières fois où je suis arrivé à Nouvelle-Vie, à quel point j'étais impressionné par Nouvelle-Vie. Je rentrais là, puis de voir des milliers de personnes franchir les portes chaque dimanche, plusieurs sites. Moi, je viens d'une église en France où on est juste 30, puis c'était vraiment une autre réalité de voir les lumières, la qualité du worship, tout ce que même Nouvelle-Vie offrait au terme de département. Département pour les enfants, pour les aînés, pour les ados, pour les jeunes adultes, tous les bénévoles qui sont impliqués. Je voyais les missions humanitaires, c'était juste fou. Puis c'est grâce à vous. Puis j'aimerais qu'on puisse souligner toutes les personnes qui viennent, qui sont impliquées semaine après semaine, qui font des sacrifices, qui s'impliquent. Est-ce qu'on pourrait leur donner une main d'applaudissement, les encourager, parce que c'est vous qui faites briller l'Église. Et on ne veut vraiment pas prendre ça pour acquis. Moi, je me souviens, les premières fois où je suis arrivé à Nouvelle-Ville, j'étais juste impressionné par tout ce qui prenait place. Juste extraordinaire. Mais lorsque ça fait, moi ça fait 10 ans maintenant que je suis impliqué à Nouvelle-Vie, plusieurs années que je travaille à temps plein, lorsque tu commences à être impliqué, tu commences à voir le behind the scene un peu. Tu commences à voir que toutes ces réunions extraordinaires, bah, comment elles sont conçues, pourquoi elles sont extraordinaires. Puis tu te rends compte en fait que la raison pour laquelle il y a autant de fruits, oui c'est par la faveur et la grâce de Dieu, mais c'est aussi... parce qu'à cause de simples gestes ordinaires d'obéissance d'hommes et de femmes qui sont fidèles. Lorsque tu vois en fait un worship qui est incroyable sur le stage, c'est tout simplement des hommes et des femmes qui pratiquent leur chant pendant des heures et des heures pour que lorsque le dimanche matin ils arrivent sur le stage, ça soit parfait. Quand tu vois des réunions qui se déroulent bien, qui sont carrées du début à la fin en termes de logistique, en termes de déroulement, c'est des hommes et des femmes qui font des meetings, qui réfléchissent à comment la réunion peut être le plus bénissante en 1h15, en 1h30. C'est des hommes et des femmes qui ont des pads, qui ont des checklists et qui s'assurent de tout ça. Pour le ministère des aînés qui a tellement de fruits, c'est des hommes et des femmes qui prennent leur téléphone, qui appellent nos aînés pour savoir comment ils vont. Et des fois, ils tombent sur des boîtes vocales. C'est des leaders ados qui font des zooms à chaque semaine avec des ados pour les encourager dans leur foi. Et la plupart du temps, les ados et la moitié d'entre eux ne veulent même pas mettre leur caméra. Là, je parle d'expérience. Quand tu regardes ces gestes-là, ces actions-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Si tu les prends de manière isolée, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais fait avec constance et mis tous ensemble, ça donne Nouvelle-Vie. Ça donne une église qui est en santé. Ça donne une église qui est sur plus de 7 sites, plus de 100 baptêmes l'année dernière. Ça donne des dizaines et des centaines de vies transformées. Ne minimise pas l'impact de tes petites décisions parce que c'est elles qui forgent ton caractère et ultimement, c'est celles qui forgent ta destinée. Et les tentations auxquelles nous faisons face, si elles peuvent nous façonner pour le pire, elles peuvent également nous façonner pour le meilleur. Mais pour ça, nous devons avoir une juste vision de qui Dieu est. Une bonne perception de qui Dieu est. Et c'est le deuxième obstacle que j'aimerais voir avec vous ce matin. C'est mon deuxième point. Le deuxième obstacle au rêve de Dieu pour nos vies, et qui bien souvent nous empêche de remporter les victoires qu'on veut sur les tentations, c'est d'avoir une mauvaise perception de qui Dieu est. L'auteur Dane Ortlund, dans son excellent ouvrage « Doux et humble de cœur », c'est un des livres qui m'a le plus marqué en ce début d'année. Il a dit ceci. Il se peut que la plus grande victoire de l'ennemi sur votre vie actuelle ne soit pas le péché auquel vous cédez souvent, mais les pensées sombres que vous entretenez au sujet du cœur de Dieu qui vous y pousse en premier lieu et qui vous garde tiède à son égard. Tellement deep. Bien souvent, là, la source de nos problèmes, ce n'est pas qu'on aime trop le péché, mais c'est la vision erronée qu'on a de Dieu qui nous pousse juste à perdre notre émerveillement face à qui il est et qui nous pousse à avoir une attitude tiède à son égard. En d'autres mots, ce n'est pas que nous aimons trop le péché, c'est que parfois nous n'aimons pas assez Dieu parce que nous avons une vision erronée de qui il est. La Bible enseigne que nous avons le libre arbitre. Ce qui veut dire qu'en gros, nous décidons toujours, nos décisions sont toujours faites en fonction de ce qu'on désire le plus. Nos choix sont toujours faits en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on désire le plus. Puis là, il y a quelqu'un qui va me dire, Thomas, je ne suis pas d'accord. Moi, je me lève tous les matins à une job pour aller à une job que je n'aime pas. Si je faisais vraiment ce que je voulais, je resterais dormir dans mon lit. Mais lorsque tu réfléchis, tu dis non. Parce que même cette personne-là qui se lève pour aller à une job qu'il n'aime pas, pourquoi il se lève ? C'est parce que oui, il a envie de continuer à dormir, mais ce qu'il désire plus, c'est pouvoir continuer à payer ses factures, pouvoir continuer à manger, pouvoir continuer à payer l'essence qui devient affreusement chère. C'est ça qu'il veut. Et ça, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de votre vie. Même, par exemple, une personne qui est à la diète en ce moment, qui fait un régime, qui dit moi, Thomas, là, je te suivais jusque-là, mais là, quand tu parles de ça, là, je ne suis juste pas d'accord. Parce que moi, en ce moment, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas mangé de dessert. La seule chose que je veux en ce moment, c'est manger du chocolat. Je veux manger du chocolat, j'ai vraiment envie de manger du chocolat, j'ai un craving pour ça. Mais je ne le fais pas. Donc, je ne fais pas ce que je veux le plus. Même cette personne-là, la réalité, c'est que ce qu'elle désire le plus que manger du chocolat, c'est être en santé, c'est perdre du poids. À un point tel qu'elle est prête à sacrifier son envie de manger du chocolat pour pouvoir être en santé. Vous voyez où je veux en venir ? Donc, ce qui veut dire que la solution pour ne pas succomber aux tentations, ce n'est pas de chercher à supprimer nos mauvais désirs, ces peines perdues, mais c'est de les remplacer par un désir encore plus grand de plaire à Dieu. Et c'est ça qui a permis à Joseph de remporter la victoire sur cette tentation. Lorsque la femme de Potiphar s'approche de lui pour lui proposer de coucher avec elle, voici sa réponse. « Comment commettrai-je un acte aussi abominable et pécherai-je contre Dieu ?» Son désir de plaire à Dieu était plus grand que ses pulsions et même de la crainte qu'il pouvait avoir de la réaction de la femme de Potiphar. Ce qui lui a permis de renoncer à cette tentation-là, ce n'est pas sa volonté, c'est son cœur. La solution pour marcher dans la sainteté, dans l'obéissance, n'est pas de chercher à supprimer nos mauvais désirs, mais de les remplacer par un désir encore plus grand de plaire à Dieu. Parce que ce qu'il y a de plus important encore que les actions qu'on pose, c'est nos croyances. Ce qu'on croit au sujet de Dieu. Parce que c'est ça qui détermine à quel point on l'aime, à quel point on désire lui plaire. Et tout à l'heure, lorsque je vous ai lu la citation qui dit que nos actions deviennent nos habitudes, qui deviennent nos valeurs et qui deviennent ultimement notre destinée, j'ai enlevé la première partie pour la laisser pour ce point-là. Parce que la première partie nous dit ceci, que c'est vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs et vos valeurs deviennent votre destinée. Ce qu'il y a de plus important encore que les actions que tu poses, c'est tes croyances. C'est ce que tu crois au sujet de Dieu. Quelle est ta vision de Dieu ce matin ? Est-ce que tu le vois comme un Dieu qui t'aime et qui veut réellement le meilleur pour toi ? Ou est-ce que tu le vois comme un Dieu qui t'aime mais qui donne plein de commandements qui au final t'empêchent de vivre la vie épanouie que t'aimerais ? La vision que tu as de Dieu est super importante parce que c'est elle qui va déterminer les actions, les décisions, les choix que tu vas prendre. Et c'est pour ça que si tu ne connais pas encore Jésus ce matin et tu es là pour les premières fois, mon but, mon objectif, ce n'est pas que tu adoptes certains comportements moraux. Mon but, c'est que tu rencontres Dieu. Parce que lorsque tu as une rencontre avec Jésus-Christ, que tu réalises à quel point il t'aime, à quel point il a tout donné pour toi, tu n'as qu'une envie, c'est de lui plaire. Parce que tu réalises que tous les commandements qu'il t'a donnés, ce n'est pas pour te priver de ta liberté. Au contraire, c'est pour te donner, pour te redonner ta liberté. C'est des commandements qu'il t'a donnés par amour pour ton bien. Et plus tu marches dans ses voies, plus tu es prospère. Mais je crois qu'il est possible. Je crois qu'il est possible de marcher avec Dieu depuis des années et d'avoir une vision erronée de qui il est. Je crois qu'il est possible d'avancer dans la foi chrétienne, puis de confondre sa sévérité, de prendre sa sainteté comme de la sévérité, de croire que parce qu'il est saint et parfait et que nous ne le sommes pas, que juste sa colère est prête à bondir sur nous au moindre écart de notre part. Et que d'un autre côté, pour avoir sa bonté, son amour, ses bénédictions sur nos vies, ça prend de l'obéissance, ça prend des sacrifices. Je crois qu'il est possible de croire parfois que Dieu réfléchit comme un homme. On va parler vrai pendant un instant là. Si on est honnête entre nous là, en tant qu'être humain là, face à l'offense, lorsque quelqu'un nous offense, notre première réaction là, c'est pas forcément l'amour, la grâce là. Lorsqu'on nous offense, notre première réaction, c'est plus l'irritation, la frustration. Et c'est pour ça que Hébreux 10, 24 nous dira, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. il avait très bien compris qu'on n'a pas besoin de s'exciter à la frustration, à la colère, ça vient naturellement. Ça vient très facilement. Par contre, ce qu'on a besoin de stimuler les uns chez les autres, de s'encourager, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la grâce. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Dieu, c'est totalement l'inverse. De Genèse à Apocalypse, vous ne trouverez aucun verset qui dit qu'on a besoin d'exciter l'amour de Dieu, parce que c'est ce qui jaillit naturellement de lui. En fait, la seule chose qu'on peut exciter chez Dieu, c'est sa colère. Parce que ce qui jaillit naturellement face à l'offense, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est la grâce. La parole de Dieu nous dit que c'est l'inverse de nous, qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. On peut applaudir. Ce Dieu qui est riche en bonté, moi je suis content qu'il soit riche en bonté et rempli de grâce envers moi. Ce qui prend le plus plaisir, c'est de pardonner, c'est de donner de l'amour, c'est de donner de la grâce. Dieu t'aime beaucoup plus que ce que tu penses. Dieu t'aime beaucoup plus que ce que tu penses. Dieu est beaucoup plus patient envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Dieu a beaucoup plus de grâce envers toi que tu n'as envers toi-même. Et Dieu est lent à la colère. Et dans notre lutte contre le péché, il faut absolument qu'on apprenne à discerner entre la voix de la condamnation qui ne vient pas de Dieu et la voix de la conviction. La condamnation nous pousse à nous cacher de Dieu après nos erreurs, alors que la conviction nous pousse à courir à lui. La condamnation te dit « Dieu ne veut plus de toi ». La conviction te dit « Dieu t'attend les bras grands ouverts ». La condamnation te dit « Tu as trop fauté, tu t'es trop éloigné de Dieu ». Ça fait combien de temps que tu restes dans ce péché-là ? Des années et des années, tu es juste un hypocrite. Dieu ne veut plus de toi, il a vu clair dans ton jeu. La voix de la conviction te dit « Là où le péché abonde, la grâce surabonde ». Yes, on peut applaudir ce Dieu qui est un rempli de grâce. Lorsque Jésus était sur la croix, et qu'il te voyait, il avait connaissance de tes péchés passés, présents et futurs. Et il a quand même décidé d'aller au bout pour toi, par amour, pour t'offrir la vie éternelle. Tu ne peux jamais arriver à un point où Dieu va dire « Non, 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 là c'est trop ». Il est allé au bout pour toi, il avait connaissance même des péchés que tu allais commettre après ta conversion. Mais il s'est dit « ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, je l'aime et je suis prêt à mourir, à donner ma vie pour lui offrir le pardon et la vie éternelle ». La voix de la conviction, c'est la voix du Père qui dit « Il est temps de revenir à moi ». Il est temps de revenir à moi. En ce moment, tu es dans le compromis. Puis je crois réellement à l'œuvre du Saint-Esprit qui en ce moment est en train de convaincre les cœurs que peut-être en ce moment-là, il y a des choses que le Saint-Esprit est en train de pointer dans ta vie. De dire des compromis, de dire, tu n'as pas encore mordu à l'hameçon là, mais tu es en train de tourner. Puis c'est juste une question de temps avant que tu franchisses la ligne. Dieu va te dire, reviens à moi, je t'appelle à revenir. Et Dieu ne t'appelle pas à revenir avec colère. Il t'appelle à revenir avec grâce, avec amour, avec bonté. Il y en a qui sont appelés à revenir à Dieu ce matin. Mais alors qu'on revient à Dieu et qu'on marche dans l'obéissance, nous pouvons faire face à une dernière tentation. La tentation des mauvaises attentes. Parce que Joseph obéit à Dieu, il renonce à la tentation, mais au lieu que sa situation s'améliore, elle se détériore. La femme de Potiphar, face à ce nouveau refus-là, elle invente un mensonge et elle l'accuse. Elle l'accuse d'avoir essayé de la violer. Et là, Potiphar n'a pas d'autre option que de jeter Joseph en prison. Et c'est ce que le texte nous dit. Il nous dit « Quand le maître de Joseph eut entendu les paroles de sa femme qui disait « Voilà ce que m'a fait ton serviteur », sa colère s'enflamma. Et le maître de Joseph le prit et le mit dans la prison. Il obéit à Dieu, il marche dans l'intégrité et sa vie explose quand même. Et là, la tentation est forte de dire « Coudon, est-ce que ça donne quelque chose ? J'obéis à Dieu, je marche dans la fidélité et mes circonstances extérieures s'empirent. » Et ça me fait penser à une situation que j'ai vécue. Moi, j'ai fait mes études ici au cégep, puis la plupart des cégepiens, j'ai enchaîné les jobs étudiants. Et une des jobs que j'ai eu à un moment donné, c'est que j'étais représentant pour une compagnie qui vendait du gazon. Okay, puis je faisais du porte-à-porte et c'était un de mes travaux les plus payants. J'avais jamais eu un salaire aussi grand de ma vie. Je touchais des commissions, tout ça. Puis je travaillais avec des amis, avec des jeunes comme moi. Puis c'était un travail dans lequel je me plaisais. Je faisais beaucoup d'argent pour l'époque, pour moi, pour mes faibles besoins d'homme célibataire en appartement. J'étais vraiment bien. Sauf qu'à un moment donné, je faisais du porte-à-porte avec mon collègue et la police qui faisait des tours de quartier est venue nous voir puis nous dire que tout simplement, on n'avait juste pas le droit. On n'avait juste pas le droit de faire du porte-à-porte. On n'avait pas le droit de solliciter des gens que la compagnie pour laquelle on travaillait n'avait pas le permis pour ça. Et qu'en plus, ce n'était pas la première fois qu'ils les avertissaient. Donc nous, on a immédiatement arrêté. On est rentré au bureau. Puis on allait voir. On allait voir notre patron puis pour lui poser la question de dire comment ça se fait. Est-ce qu'on a le droit ? On n'a pas le droit ? Est-ce que c'est légal ce qu'on fait ? Puis là, je me souviens de la réaction de mon boss qui nous a tout simplement dit « Oh, tu sais, soi-disant, on n'a pas le droit. Ils nous accusent tout le temps, mais t'inquiète pas, ils font des menaces, mais ils ne vont pas au bout de leurs menaces. C'est correct pour aujourd'hui, mais vous pouvez retourner demain, là, ce n'est pas grave. S'ils vous arrêtent encore, ils ne vont pas aller au bout de leurs menaces. Puis là, moi, jeune étudiant, 18, 19 ans, jeune chrétien, jeune converti, je suis là face à un dilemme de me dire, OK, j'ai ma job dans laquelle je n'ai jamais fait autant d'argent, mais en même temps, ce n'est pas légal. J'étais face à tentation du compromis. Puis je me souviens que j'avais choisi d'obéir. J'avais choisi d'obéir à Dieu et de dire, bah, tu sais quoi, je démissionne si ce n'est pas légal, tout ça. Puis comme j'étais fier de moi d'avoir remporté cette tentation-là, de dire, OK, Dieu m'a donné cette conviction-là que ce n'était pas bien que j'aille que je continue dans cette job-là. OK. Puis je me souviens que, jeune chrétien, tout ça, j'avais la pensée de me dire, hey, si Dieu m'a donné la conviction, là, il m'a demandé d'obéir, là, c'est parce qu'il a mieux pour moi. Là. Alors donc là, j'arrivais, tout ça, puis je me suis dit, OK, là, si j'obéis à Dieu, c'est qu'il va y avoir, dans quelques jours, là, je vais avoir un nouvel emploi qui va me payer encore plus. Je me voyais déjà raconter le témoignage devant toute l'église, alors que j'ai démissionné. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une offre, un salaire de 500 000 dollars qui était encore meilleur que mon autre job, tout ça. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. La réalité, c'est que j'ai démissionné et après, j'ai mis plusieurs mois à trouver un travail. Et le travail que j'ai trouvé ensuite était beaucoup moins payant. Et c'est comme si je me dis, OK, j'ai obéi à Dieu, mais les circonstances extérieures ne se sont pas améliorées. Au contraire, elles se sont détériorées. Et c'est là où je me suis posé la question, je me suis dit, pendant un quart de seconde, je me suis dit, est-ce que j'ai fait la bonne affaire ? Mais je me souviens que, bien que j'étais un jeune chrétien immature sur plein d'aspects, je me souviens que ce questionnement-là n'est pas resté longtemps. Parce qu'en prenant cette décision-là, j'ai découvert un secret incroyable. J'ai découvert qu'il n'y a rien qui peut remplacer la paix que Dieu donne lorsqu'on marche dans l'obéissance. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Absolument rien. Ni l'argent, ni le succès, ni l'approbation des autres, ni même l'absence d'épreuves, il n'y a rien qui peut remplacer la paix que j'ai, la paix qu'on a lorsqu'on marche dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande. Il n'y a rien qui remplace le fait de marcher clean face à Dieu qui a tout donné pour nous. Le Dieu qui a tout donné pour moi, je veux marcher avec une conscience pure devant lui. Il n'y a rien qui remplace cette paix, ni même l'absence d'épreuves. Et ça tombe bien parce que le résultat de notre obéissance, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais c'est la paix de Dieu. C'est ce que Philippiens nous dit. C'est ce que Paul nous dit en Philippiens 4:9. Il nous dit « Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. » Le résultat de notre obéissance n'est pas l'absence d'épreuves, mais la paix de Dieu avec nous. Dieu ne nous a pas promis une vie sans épreuve. Il nous a promis sa présence avec nous dans l'épreuve. À un moment donné, l'apôtre Pierre enverra même une lettre à une église qui marche dans la persécution et qui marche pourtant dans l'obéissance. Il marche dans l'obéissance, il marche dans la fidélité, il prêche l'évangile malgré la persécution. Il leur dira même, ne soyez pas surpris que vous viviez des épreuves comme s'il s'agissait d'une chose anormale. La parole de Dieu est claire dessus qu'en tant que chrétien, on ne va pas forcément être épargné par les épreuves de la vie. Pourtant, si on est honnête, lorsqu'on passe par des moments difficiles, lorsqu'on passe par des moments de souffrance, notre première réaction, c'est de dire, Dieu, t'es où ? Dieu, t'es où ? Comment ça se fait que je passe par des épreuves comme ça ? Tu vois pas mon obéissance ? Tu vois pas mon service à l'église ? Dieu, t'es où ? Comment ça se fait qu'il m'arrive ce qui m'arrive ? Et ça me fait penser à une autre anecdote que j'ai vécue dans un autre de mes travaux étudiants. J'ai travaillé pendant plus d'un an auprès d'une compagnie qui s'appelle Air Medic. Puis cette compagnie-là, elle permettait d'assurer les personnes qui partaient, qui faisaient des voyages loin pour la pêche, pour aller faire du ski doux, pour aller au chalet, et des personnes qui se retrouvaient parfois à plusieurs heures de l'hôpital le plus proche. Et ce qu'on leur disait, c'était que à ce moment-là, si vous arrivez un accident en skidoo ou quoi que ce soit, et que vous êtes à plusieurs heures de l'hôpital le plus proche, vous êtes vraiment mal barré. Donc nous, ce qu'on leur offrait, c'était que si vous arrive un accident et que vous êtes si loin, nous, ce qu'on fait, vous nous appelez, nous, on vient en hélicoptère vous chercher et vous amener à l'hôpital qui correspond le mieux à vos besoins. On ne promettait jamais que, alors qu'ils allaient aller en skidoo, qu'ils prenaient l'assurance, qu'ils n'allaient pas avoir d'accident. En fait, la raison pour laquelle ils prenaient cette assurance-là, c'est parce qu'ils savaient que tôt ou tard, ils allaient avoir besoin de nous. Ce qui fait que lorsqu'il y arrivait un drame, une crise cardiaque, un accident, ils ne nous appelaient jamais pour dire, en colère, en disant, hey, comment ça se fait ? Je paye mon assurance chaque année, puis là, je suis pris, j'ai une crise cardiaque, je paye pour rien mon assurance. Quoi. Non, ils nous appelaient, ils nous disaient, c'est le moment, guys. J'ai besoin de vous. j'ai besoin que vous veniez me chercher, j'ai besoin que vous veniez me sortir de là. Et j'aimerais te dire ce matin que tu peux crier à Dieu. Dans ton épreuve, dans les souffrances que tu vis, tu peux crier à Dieu. Tu peux crier à Dieu, il t'a promis sa présence dans l'épreuve. Ne lève pas le poing au Dieu qui veut te tendre la main ce matin. Peut-être que tu vis des moments difficiles, j'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Non seulement Dieu est avec toi, mais c'est celui qui te comprend le plus. La personne qui comprenait le plus Joseph dans cette prison-là, c'était Jésus. Parce qu'il sait ce que c'est de se faire mettre en prison injustement. Et dans ton épreuve, la personne qui te comprend le plus, c'est Jésus. Toutes les souffrances, toutes les épreuves auxquelles on fait face dans nos vies, Jésus les a déjà fait face. Jésus sait ce que c'est de se sentir seul, de ne pas être estimé à sa juste valeur, d'être trahi, d'être humilié. Il sait ce que c'est de souffrir dans son corps, il sait ce que c'est d'être malade. Nous n'avons pas un Dieu qui nous regarde d'en haut, qui nous dit hey, « je vous ai prévenu, guys, que ça allait être tough, let's go, on y va là ». On a un Dieu qui a compassion, qui est venu souffrir avec nous, qui a compassion de chacune de nos souffrances, qui souffre avec nous. Ce matin, ne lève pas le poing au Dieu qui veut te tendre la main. Dieu est avec toi dans ton épreuve. Tu peux crier à lui ce matin. Et alors qu'on continue le texte, ce qui arrive, c'est que la première information qu'on nous donne lorsque Joseph est en prison, c'est que l'Éternel fut avec Joseph. Comme un clin d'œil, je dirais, il fut dans la prison et l'Éternel fut avec Joseph. Le résultat de notre obéissance n'est pas l'absence d'épreuves, mais la paix de Dieu avec nous. Et sa présence avec nous, la présence du Dieu de l'impossible avec nous dans l'épreuve, lorsqu'il est avec nous, il transforme des pires tragédies, il est capable de faire sortir du meilleur. Des pires souffrances, il est capable d'amener quelque chose de positif. Parce que Joseph, lorsqu'il est mis dans cette prison, il n'est pas mis dans n'importe quelle prison. Il est mis dans la prison du roi. Et la suite du texte nous dit que c'est son œuvre en prison qui lui permettra, où il collaborera avec les collaborateurs du roi. C'est grâce à son œuvre en prison, c'est grâce à son passage en prison qu'il deviendra gouverneur d'Égypte et qu'il deviendra l'homme providentiel dont Israël avait besoin. Des pires épreuves, Dieu est capable de faire sortir le meilleur. Dans ton anxiété, Dieu est capable de venir et de te donner une paix surnaturelle. Dans ta tristesse, Dieu est capable de venir et de te donner une joie surnaturelle. Dans ton désespoir, Dieu est capable de te donner un espoir inébranlable. Dieu est avec toi. Et si tu as la tentation ce matin de dire, j'obéis à Dieu, mais là, j'ai comme la tentation de juste abandonner parce que les circonstances extérieures ne sont pas positives, j'aimerais te dire, continue à lui faire confiance. Continue à marcher dans l'obéissance. Continue à marcher dans la fidélité parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que je peux entendre un dernier Amen, Château-Guesma?